Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Fanny Richet, Émilie Chaudet, Mathilde Barbier, Kieran Gessel, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son Jacques Azubert. Hollande, t'es foutu, les patrons sont dans la rue. Macron, si tu savais, les baisses de charges où on se les met. Voilà le genre de slogan que vous risquez d'entendre le 1er décembre prochain. Ce jour-là, les patrons français ont prévu de manifester leur mécontentement à l'égard du gouvernement. Alors, tous ne défileront pas dans la rue, mais c'est bien le mode d'action qu'entend privilégier la CGPME à Paris et à Toulouse. Les organisations patronales n'en sont pas à leur coup d'essai dans leur rapport conflictuel avec l'actuelle majorité. En octobre 2013, cette même organisation, associée au MEDEF, adressait des cartons jaunes au gouvernement, considérant que ce dernier manquait de considération à l'égard des entreprises. Un an plus tôt, une poignée d'entrepreneurs français frondeurs, pigeons autoproclamés, parvenaient à faire reculer l'exécutif après une mobilisation express sur des questions de fiscalité. Mais autant la mésentente paraissait presque logique à l'époque, la gauche venait d'accéder au pouvoir, autant elle semble beaucoup plus difficile à comprendre aujourd'hui. François Hollande et Manuel Valls répètent à qui veut les entendre qu'ils aiment l'entreprise et ils passent des paroles aux actes avec le pacte de compétitivité, le choc de simplification, la promesse de revoir les seuils sociaux ou encore les indemnisations chômage, si bien que la semaine d'action patronale de décembre prochain paraît pour le moins incongrue. Alors patrons mécontents, mais que leur faut-il de plus? C'est notre sujet du jour. Et trois invités pour en discuter ce soir. Jean-Yves Duménil-Dubuisson, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le secrétaire général de la CGPME, la Confédération Générale des Petites et des Moyennes Entreprises, une des organisations qui appelle donc les patrons à se mobiliser la semaine du 1er décembre. Je ne sais pas si les slogans que j'ai imaginés pour votre manif pourraient vous inspirer. Vous en trouverez peut-être des un peu plus originaux.
Merci pour les idées, en tout cas.
Et puis, vous nous expliquerez, bien sûr, pendant cette émission, quelles sont les revendications qui sous-tendent cette semaine de mobilisation. Pour discuter avec vous ce soir, Alain Souline, bonsoir.
Bonsoir.
Président fondateur de l'agence de communication numérique, les Argonautes. Vous aviez signé en octobre 2012 et vous étiez venu nous en parler à l'époque, une tribune, vous étiez quelques patrons de PME, tribune publiée dans Libération, qui s'intitulait « Nous des pigeons, non ». Vous contestiez la fronde des pigeons. On s'est dit que peut-être que ce soir, justement, ça serait intéressant d'entendre un patronat qui n'est pas... Enfin, je ne sais pas si vous êtes affilié à une organisation syndicale patronale.
Au Syntec Numérique.
Syntec Numérique, d'accord, qui ne fait pas partie donc, des trois grandes que sont l'UPA, la CGPME, le MEDEF.
Qui fait partie du MEDEF.
Ah bah alors, ce sera d'autant plus intéressant d'avoir votre point de vue. Notre troisième invité, c'est Alain Chatriot. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, chargé de recherche au Centre de Recherches Historiques, un laboratoire rattaché à l'EHESS et au CNRS. Vous avez collaboré au Dictionnaire historique des patrons français. C'était chez Flammarion en 2010. Alors, Alain Souline, vous êtes en quelque sorte un représentant du MEDEF, mais pas un représentant officiel du MEDEF ce soir. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour faire une espèce de transition, simplement pour signaler que nous avions aussi convié des représentants du MEDEF ce soir, que les deux personnes a priori habilitées à répondre à nos questions sur ce sujet-là font le pont. C'est en tout cas ce que nous a répondu voilà, le service de communication du MEDEF. Bon, la CGPME est là, grâce à vous. Grâce à vous, Jean-Yves Duménil. Semaine de mobilisation donc des organisations patronales le 1er décembre. Le choix de la CGPME, c'est notamment de manifester le 1er à Paris et à Toulouse. Pourquoi avoir fait ce choix de la manifestation de rue, ce qui est assez, peut-être pas inédit, mais enfin inhabituel de la part d'une organisation patronale?
Notre volonté maintenant, c'est simplement de montrer au gouvernement que les chefs d'entreprise sont dans un état d'exaspération qui n'est plus supportable et qu'on a des revendications qui sont propres au patronat. Alors vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des déclarations d'amour pour les entreprises. C'est vrai, il faut tout à fait le reconnaître. Il y a aussi des choses concrètes qui ont été faites. On pourrait parler du CICE, par exemple, le crédit d'impôt compétitivité emploi. On pourrait parler de la démarche et de la volonté de simplifier la vie des entreprises. Mais malheureusement, à la fois cette déclaration et ces démarches on en reste au stade des bonnes déclarations.
Mais en général, ces réserves que vous pouvez avoir en tant qu'organisation patronale, vous les exprimez dans le cadre du dialogue social, soit avec les syndicats, soit avec le gouvernement. Pourquoi la choisir ce mode d'action précisément ?
Parce que tout simplement, on n'est pas entendu. On a des demandes précises sur, on les expliquera un peu plus si vous voulez, sur la pénibilité ou sur la cession d'entreprise. On a fait valoir nos arguments, on a rencontré nos interlocuteurs aussi bien au Parlement qu'au gouvernement. Malheureusement, on n'a pas été entendu, on a été écouté, mais on n'a pas été entendu. Les textes ont avancé, les lois ont été votées, les décrets d'application ont été pris. Donc maintenant, on n'a pas d'autre solution que de s'exprimer dans la rue. On a besoin également du soutien de l'opinion publique. Ce sont les entreprises et leurs salariés qui sont concernés.
Juste d'un mot, ça va ressembler à quoi une manif de patron ? L'idée, c'est de suivre un parcours ou c'est encore en construction ?
D'abord, ça ne va pas ressembler à une manifestation de casseurs, ça c'est absolument certain. Ce sont des gens simplement qui sont des gens responsables, qui sont dans la rue et ils ne sont pas habitués à être dans la rue. Donc ils vont être là simplement pour témoigner, pour montrer leurs difficultés et puis encore une fois pour que le gouvernement prenne conscience de la réalité des difficultés de l'entreprise. On est dans un record de défaillance d'entreprises, plus de 63 000 entreprises qui déposent le bilan et donc on a véritablement besoin d'être entendu. Et il faut mettre un coup d'accélérateur. Il y a le pacte de responsabilité dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, il faut qu'il rentre en vigueur. Très peu de choses pour l'instant de concrètes pour les chefs d'entreprise.
Bon alors Alain Assouline, vous êtes patron, vous dirigez une PME. C'est une soixantaine de salariés,
65
collaborateurs,
oui,
hein, j'ai vu sur le site des Argonautes. Est-ce que vous allez aller manifester le 1er décembre ?
Non, je ne manifesterai pas à cette date.
Parce que vous êtes pris ou parce que vous ne souhaitez pas le faire ?
Non, c'est-à-dire que d'abord, on peut s'interroger pour quelle raison aller aussi loin, effectivement, dans l'expression d'un mécontentement alors que le gouvernement fait tout ce qu'il est en train de faire. Alors, je ne me prononcerai pas sur le fait que ça peut. Est-ce que ça aurait des visées politiques ? Pourquoi ne pas l'avoir fait sous des précédents gouvernements qui ont fait bien moins que ce gouvernement a fait ? C'est vrai que le CICE, le pacte de responsabilité, ce sont des choses qui. J'en dirai quelques mots. Moi, je trouve que c'est bien. Je trouve que ça ne va pas assez loin par rapport à ce que nous aurions pu attendre. Mais cette façon de, à chaque fois qu'on donne le petit doigt, de demander la main entière, je trouve que c'est un peu déplacé.
Vous avez l'impression qu'il y a une forme d'ingratitude ?
Alors peut-être que je comprends cette exaspération, parce que nous-mêmes, on vit dans cette situation économique difficile. On est sur des questions comme sur la trésorerie, sur toutes ces questions-là. Les patrons de petites entreprises sont extrêmement tendus. Donc, je trouve qu'il vaudrait mieux, et là-dessus, je serais prêt à dire quelques mots, il vaudrait mieux se mobiliser là-dessus et voir comment on peut résoudre ce type de problème que d'aller sur des questions... sur la loi Hamon, franchement, je ne comprends pas votre position, parce que...
Alors la loi Hamon, c'est la question de la cession des entreprises. Je vous propose peut-être d'y revenir un tout petit peu plus tard. D'accord. Sur ce sujet de fond, mais simplement une réaction, Jean-Yves Duménil, et ensuite on écoutera Alain Chatriot, notre historien, qui nous dira aussi si cette forme de mobilisation a déjà existé.
Et d'abord, je trouve que c'est un peu réducteur de parler de visée politique. À partir du moment où les patrons s'expriment, c'est politique. Quand les syndicats de salariés s'expriment, ça n'est pas politique. Quand les fonctionnaires qui sont dans la rue, quel que soit le gouvernement s'exprime, là, ça n'est pas politique. Ça veut dire que les patrons sont des formes de sous-citoyens qui n'ont pas droit à la parole. Nous, c'est pas notre conception des choses.
Non, surtout pas. Hein. J'ai pas voulu dire ça.
On n'est pas des casseurs, on n'est pas simplement les gens doivent être entendus.
Avec ce gouvernement, avoir de telles exigences que vous n'avez pas eues avant.
Mais on n'a pas plus d'exigences avec ce gouvernement. Vous trompez. Et il se trouve que là, il y a des mesures précises qui sont des mesures inacceptables dans les entreprises, y compris dans la vôtre. Quand on parle de pénibilité, alors votre secteur d'activité peut-être moins concerné, mais je vous garantis que dans tout le monde industriel ou dans le secteur du bâtiment, il y a 10 critères de pénibilité qu'on ne pourra pas tout simplement appliquer. Donc, sur le principe, pourquoi pas, mais là, la mesure telle qu'elle est inapplicable. C'est la difficulté.
Peut-être qu'Alain Chatriot va nous permettre de trancher une première fois dans ce débat. Est-ce que les organisations patronales sont d'autant plus revendicatrices que le gouvernement est un gouvernement de gauche ? Est-ce qu'on observe ça sur la durée ?
Elles l'ont été historiquement, mais le plus souvent parce que c'était une manière de s'opposer à des mesures très précises. C'était le cas au moment du Front populaire en 1936 face aux grandes lois sociales. C'était le cas dans un tout autre contexte, mais également en 1981. Donc là, il y avait pas simplement le fait que ce soit un rapport à un pouvoir et à une majorité de gauche, mais c'était aussi une manière de réagir à des lois sociales précises qui étaient vécues collectivement comme des progrès sociaux. En tout cas revendiquées comme telles par les confédérations de salariés.
La mobilisation actuelle, elle n'entre pas dans ces catégories-là, dans ce cadre-là ?
Alors, elle pourrait entrer si on fait cette lecture-là de la loi Hamon, mais je pense que ça peut se discuter. Mais il me semble qu'il y a une autre dimension, indépendamment de cette réaction au pouvoir politique lorsqu'il est porteur éventuellement de mesures, lois et décrets qui contredisent la doctrine des confédérations patronales. C'est aussi pour ces confédérations patronales, en se mobilisant, une manière de mieux assurer leur unité dans des moments où elles sont, comme souvent, traversées malgré tout par des optiques assez différentes. Et on vient d'en avoir à l'instant un exemple. Et ça, de ce point de vue-là, il y a une longue histoire. Le fait qu'il existe en France trois confédérations patronales qui, certes, ont pour une part l'habitude de travailler ensemble. Le MEDEF, aujourd'hui le plus connu, qui a une longue histoire. La CGPME et l'UPA pour les artisans. Certes, ces trois confédérations travaillent ensemble sur un certain nombre de projets, mais justement, on n'a pas une organisation confédérale du patronat français. Et en dehors de ces déjà trois confédérations, on a aussi toutes les fédérations de branches qui, parfois, sur un certain nombre de dossiers, ont des rapports différents aux lois sociales telles qu'elles sont votées.
Donc, de la même manière que quand on s'intéresse aux syndicats de salariés en observant des périodes où on est plutôt dans la division syndicale et puis d'autres dans l'union sacrée, on observe à peu près la même chose s'agissant des organisations patronales, Alain Chatriot.
Se mobiliser face à l'État est souvent une bonne manière de réassurer l'unité du camp patronal, si on peut s'exprimer ainsi. La nouveauté, à mon avis, et qui est à l'arrière-plan de la situation présente, c'est que dans ce débat-là, on entend peu les confédérations de salariés. Et ça, c'est peut-être davantage une nouveauté.
Jean-Yves Duménil.
Simplement sur l'analyse, moi, l'analyse historique, elle est ce qu'elle est. Simplement, je crois qu'il y a une dimension particulière dans cette période. Alors, on l'a dit, il y a des revendications précises, on a cité quelques-unes, mais il y a aussi un appel au secours des entreprises. Et ça, je pense que c'est la nouveauté. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a véritablement des entreprises, et notamment des toutes petites entreprises, qui sont en difficulté.
Il y a le vice-président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, qui disait récemment, il y a un patron de PME qui se suicide tous les deux jours. Et votre président, Jean-François Roubaud, donc de la CGPME, parle de ras-le-bol qui devient vraiment violent. D'ailleurs, vous disiez tout à l'heure, on n'est pas des casseurs, mais enfin, il y a quand même l'idée de se dire, attention, retenez-nous ou on fait un malheur.
Mais précisément, ce qu'on ne veut pas, c'est que cette violence s'exprime. Donc, ce qu'on souhaite, c'est canaliser également cette exaspération des chefs d'entreprise pour que les gens puissent se faire entendre. Vous savez, les gens qui sont désespérés, qui n'ont pas de moyens de se faire entendre, effectivement, là, ça devient très dangereux. Donc, nous sommes une confédération responsable. Notre volonté, c'est certainement pas d'aller brûler des voitures dans la rue. Par contre, quand les gens sont en souffrance, et je vous garantis que c'est le cas d'un grand nombre de chefs d'entreprise qui tout simplement sont dans des impasses, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont un carnet de commandes qui s'effondre, à qui on demande de payer des cotisations sociales, et à un moment donné, les deux ne sont plus en situation de se rejoindre, et donc ils sont coincés. Donc ces gens-là, ils veulent tout sauf déposer le bilan de leur entreprise, parfois ils y sont contraints, et donc il faut leur donner l'occasion de faire entendre également leur souffrance. Donc revendication, oui, et expression également d'une souffrance de chef d'entreprise qui existe, je vous le garantis.
Là, Soline, même si vous ne partagez pas les modalités, est-ce que vous constatez cette exaspération ?
Tout à fait, mais vous voyez bien que c'est une exaspération, celle même dont vous parlez ne concerne pas ni la loi Hamon ni la question de la pénibilité. Elle concerne des carnets de commandes qui s'effondrent, elle concerne des problèmes sûrement de trésorerie, et donc c'est plus sur ces questions-là que ce que j'ai vu, c'est que le gouvernement a essayé d'agir plus sur ces questions-là avec le CICE, il a essayé d'agir sur les questions d'investissement, parce que les carnets de commandes s'effondrent aussi bien souvent, parce que nos PME ne sont pas suffisamment automatisées, ne sont pas suffisamment robotisées, n'ont pas suffisamment pris ce tournant de cette révolution digitale qui est en train d'arriver, de cette transformation digitale. Donc pour moi, voilà les vraies problématiques sur lesquelles il faudrait que nous nous mobilisions. Alors que se dire que finalement, on ne serait pas d'accord excusez-moi, je reviens dessus, mais se dire qu'on ne serait pas d'accord pour prévenir les salariés avant de céder une entreprise, je me dis, mais...
Voilà, ça, c'est ce que prévoit la loi Hamon. Enfin, en tout cas, c'est une des dispositions de la loi Hamon qui prévoit donc que pour les entreprises de moins de...
Non, de rien du tout. Pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille...
Oui, puisque pour les grandes, c'était déjà le cas.
Le chef d'entreprise, 2 mois avant de céder son entreprise, doit avertir ses salariés pour savoir si éventuellement des salariés souhaitent reprendre l'entreprise. Donc, c'est une obligation d'information 2 mois avant la cession.
Et vous, Alain Souline, vous ne comprenez pas pourquoi les organisations patronales sont contre ce... Juste, on laisse terminer Alain Souline. Oui, de vous donner
moi,
la parole.
Je pense que c'est la moindre des choses de le faire, non seulement par respect pour les salariés, mais simplement pour assurer un passage de l'entreprise à ceux qui vont acheter de façon correcte. Parce que quelle entreprise vous allez passer à si les salariés ne sont pas prévenus, préparés, ne sont pas exprimés et éventuellement n'ont pas été mis. Est-ce qu'il n'y a pas eu une discussion avec ses salariés pour savoir s'ils ne voulaient pas la reprendre ?
C'est vrai que Jean-Luc Dominil, ça paraît assez, mais vous allez nous expliquer pourquoi, mais assez incompréhensible de se dire voilà, qu'il y a une opposition à ce genre de mesure qui est certes en faveur des salariés, mais ça contribue peut-être à donner l'image de patrons qui ne veulent pas communiquer et qui sont dans un monde à part par rapport à leurs salariés.
Mais ce n'est vraiment pas ça. C'est-à-dire que là, je pense que c'est une question de forme. Tout chef d'entreprise digne de ce nom dans une PME préfère que ce soit les salariés de cette entreprise qui reprennent l'entreprise pour continuer à la faire exister, plutôt que de chercher un nouvel acquéreur. D'abord, c'est plus simple pour lui. Et puis ensuite, c'est des gens qu'il connaît, avec qui il travaille depuis des années. Et vous pensez bien que quand quelqu'un dans cette entreprise est identifié comme ayant les qualités nécessaires, c'est évidemment la première personne vers qui se tourne le chef d'entreprise. La difficulté qu'on a, c'est que là, en tout état de cause, c'est pas parce que vous allez informer les gens 2 mois avant de céder cette entreprise que ça changera quoi que ce soit.
Faudrait les informer plus tôt, alors.
Oui, bien sûr qu'il faudrait les informer plus tôt. Mais c'est ce qui se passe, d'ailleurs. Simplement, on n'a pas besoin de la loi pour ça. Là, la loi
nous
dit...
Si vous le faites déjà, qu'est-ce que ça change, la loi ?
Mais ça change énormément. C'est-à-dire que là, la loi nous dit 2 mois avant, vous devez impérativement réunir les salariés et les informer. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, dans un délai de 2 mois, il peut y avoir quelqu'un dans l'entreprise qui, tout d'un coup, dit « Ah bah oui, moi, effectivement, ça m'intéresse beaucoup. » Mais vous croyez vraiment qu'on s'improvise chef d'entreprise en 2 mois, qu'on est capable de monter un plan de financement en 2 mois ? Ça n'a pas de sens, c'est méconnaître l'entreprise. Et puis, par ailleurs, quand vous cédez une entreprise...
Mais c'est 2 mois minimum, vous pouvez le faire un an avant.
Enfin, là, la loi stipule 2 mois, pardonnez-moi, c'est quand même la loi qui dit ça. La loi, c'est 2 mois, il y a un délai minimal de 2 mois. Donc, à partir de là...
Mais c'est le délai minimum.
Oui, mais enfin, la loi dit 2 mois. Donc, ça veut dire que pour le législateur, en 2 mois, vous êtes capable de susciter une vocation chez vos salariés avec un plan de financement.
Il serait préférable de le faire 6 mois avant. Je suis d'accord avec vous.
Mais c'est pas
préférable. Mais la loi ne vous empêche pas de le faire 6 mois avant.
Mais ça existe déjà. Mais ça veut dire que là...
Mais alors, pourquoi manifester contre un truc qui existe déjà ?
Attendez, ça veut dire qu'un chef d'entreprise qui a la volonté de céder son entreprise... Il a regardé d'abord parmi ses salariés, il a trouvé personne qui ait les qualités nécessaires. Donc à partir de là,
il a informé.
Mais il n'a pas nécessairement. Il connaît ses salariés un par un. Et c'est exactement quand on est dans une PME, vous connaissez vos salariés, vous connaissez leurs qualités, vous savez qui est en capacité. À ce moment-là, ça veut dire que 2 mois avant, alors qu'il a déjà trouvé quelqu'un pour reprendre cette entreprise, il peut susciter des vocations dans un délai qui n'est pas raisonnable et risquer de mettre en péril l'entreprise. Parce que ça veut dire que les fournisseurs, à ce moment-là, risque de s'en aller, les clients risquent de s'en aller, et puis les autres salariés qui ne savent pas très bien quel sera leur patron demain risquent de s'en aller. C'est ça la réalité de l'entreprise.
Bon, finalement, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faudrait le faire plus tôt et que ça se fait déjà. Alain Chatriot, ça fait un petit moment que je vous vois prendre des notes par rapport au dialogue qui s'est instauré entre Alain Souline et Jean-Luc Dominil.
Deux remarques. La première, par habitude historique, les différentes composantes du patronat n'aiment pas que des lois régente l'organisation interne de l'entreprise. Et ça, on a tout au long du XXe siècle toute une série de projets régulièrement. C'est la grande thématique très présente dans les années 60 et 70 de la réforme de l'entreprise. Mais dès qu'on parlait de mesures concrètes, les différentes parties du patronat s'opposaient à un certain nombre de choses. Et il ne s'est au fond passé que peu de choses au moment des lois Auroux en 1982. Donc ça, c'est un élément vraiment dans la durée, une réticence face au fait qu'il y ait des règles légales organisant un certain nombre d'éléments de la vie de l'entreprise, et en particulier tout ce qui touche à l'information des membres de l'entreprise.
Parce que c'est considéré comme allant à l'encontre de la liberté d'entreprendre.
Ça a toujours été un élément de crispation très net, qui se comprend, mais qui en même temps pose des vraies questions quand on compare la situation française avec, par exemple, celle d'un certain nombre de nos pays voisins. Mais il y a une autre remarque que je voulais faire, c'est que dans les exemples qui viennent d'être abordés, on voit bien combien on a là une réaction, certes, la personne qui est intervenue représente la CGPME, mais du monde des PME. Je ne suis pas sûr que par rapport à une partie des dispositions de la loi Hamon, en tout cas celles qu'on vient de discuter, les positions des grandes entreprises soient tout à fait les mêmes. Et donc là, je crois qu'il y a un phénomène ancien qui est aussi, dans les phases de revendication, on joue aussi des tensions internes à un monde patronal qui n'est pas si unitaire.
C'est sûr que selon la nature et la taille de l'entreprise, voilà, les problématiques ne sont pas les mêmes. Il y a peut-être un sujet qui permettait en tout cas de réaliser l'union sacrée au sein du patronat. Il y a quelques années, vous évoquiez Alain Chatriot le Front populaire, vous évoquiez 1981 lorsque la gauche arrive au pouvoir. On aurait pu aussi ajouter 1997, c'est Lionel Jospin, on est en période de cohabitation, qui devient Premier ministre. Et la grande mesure qui est prise, ce sont les 35 heures.
Le CNPF mobilise ses troupes contre la réduction du temps de travail à 35 heures. Le patronat organise cette semaine des états généraux dans une cinquantaine de villes, tandis que le gouvernement se lance, lui, dans un effort d'explication. 150 000 chefs d'entreprise ont reçu ce matin une lettre de deux ministres.
Comme 150 000 chefs d'entreprise, Gérard Soher aurait dû recevoir ce matin une lettre de Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn expliquant les 35 heures. Mais pour l'instant, au courrier, rien encore. Le patron des patrons de Bretagne ne décolère pas contre le gouvernement coupable, selon lui, de tenter de dresser les patrons les uns contre les autres.
La flexibilité, l'annualisation, c'est-à-dire beaucoup de souplesse dans tout cela, nous l'avons déjà réalisé dans un certain nombre d'entreprises, avec l'accord du personnel, je ne dis pas toujours avec l'accord des syndicats au niveau national, mais avec l'accord du personnel qui comprend très bien les situations. Et ça se passe très bien, mais nous l'imposer sans s'occuper cas par cas des entreprises, c'est une hérésie totale, ça ne rime à rien.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Patron mécontent, mais que leur faut-il de plus? C'est la question que nous essayons de résoudre ce soir en compagnie d'Alain Chatriot, Alain Assouline et Jean-Eudes Duménil. Si nous avons choisi cette référence aux 35 heures, c'était parce que j'étais presque surpris, Jean-Eudes Duménil, de la voir disparaître. Mais a-t-elle vraiment disparu des revendications des organisations patronales aujourd'hui? C'est pas une question d'actualité, en tout cas c'est pas la question la plus urgente pour vous?
Non, c'est certainement pas la question la plus urgente. C'est une question qui est extrêmement compliquée. Tout simplement parce que ça a été dit, les 35 heures, l'ensemble du patronat était contre cette mesure parce qu'elle représentait d'abord un changement dans le mode d'organisation et puis un coût très important pour les entreprises. Simplement, au fil du temps, cette mesure est rentrée en application. Il y a eu un certain nombre d'allègements qui ont été mis en place, notamment au travers de ce qu'on appelle le Fillon maintenant. Et donc, c'est un peu brutal de dire ça, mais d'une certaine manière, les entreprises et les salariés sont drogués aux 35 heures. Et c'est extrêmement compliqué d'en sortir. Donc, imaginez que d'un seul coup de baguette magique, on va sortir des 35 heures. Je crois que ce n'est pas quelque chose de réaliste. Ça se fera sans doute au fil du temps, mais c'est vraiment quelque chose de très difficile. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut que les salariés français, on évoquait tout à l'heure les différences avec l'Allemagne, quand vous regardez le temps de travail en France et en Allemagne, on s'aperçoit que nos amis allemands travaillent beaucoup plus qu'en France. Alors, ce n'est pas forcément simplement le temps de travail par semaine, c'est aussi les jours fériés, mais cette question-là devra bien être posée dans une logique de compétitivité des entreprises françaises par rapport aux autres entreprises qui sont nos concurrents.
Alain Assouline, vous ne m'avez pas l'air davantage convaincu sur ce sujet que sur le précédent.
Non, moi j'ai fait les 35 heures dans mon entreprise avant la loi Aubry. Donc j'ai jamais été convaincu que la question était le nombre d'heures travaillées forcément, mais la concentration au travail, la productivité et toutes ces questions-là.
Après, c'est peut-être plus facile à mettre en place dans une agence
de
communication,
c'est possible,
dans une entreprise
très possible,
plus classique.
Oui, c'est très possible.
Et puis je pense, pardonnez-moi, que c'est très bien si vous l'avez fait en place.
Vu, ce qu'on a vu aux États-Unis après la récession de la récente récession de 2008, la reprise après la récession aux États-Unis a été une reprise sans création d'emplois nouveaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on va aller de plus en plus vers une robotisation de beaucoup de travaux et que donc... se dire qu'on va travailler plus d'heures, je crois d'ailleurs qu'en Allemagne, ce n'est pas le cas. Hein. Vous dites que les Allemands travaillent plus que nous, ce n'est pas vrai.
186 heures de plus que nous.
Ce n'est pas vrai, je pense que ça, c'est un chiffre. Moi, je n'ai pas le même. Donc, je pense que le...
Qu'est-ce que vous avez comme chiffre ?
Je pense que la question n'est pas là. La question, pour moi, c'est où va-t-on réellement ? C'est-à-dire, dans les 10 ans qui viennent, vers quelle société nous sommes en train d'aller. Et là, il y a des choses à faire pour les PME qui sont très importantes.
Alain Chatriot.
Ce qui est intéressant avec les 35 heures, c'est que c'était très simple d'en faire un slogan politique. Et donc, de part et d'autre du champ politique, on l'a entendu pendant plus de 15 ans comme quelque chose qu'on pouvait s'envoyer à la figure, ça simplifiait tout, on était pour ou on était contre.
C'est plus compliqué avec le pacte de compétitivité, par exemple, ou le compte pénibilité.
Ce qui est très intéressant, et ça a été rappelé très justement, c'est que ces 35 heures, malgré toute une série de discours qui ont été portés contre elles ne sont pas tombées du ciel, elles ne se sont pas appliquées uniformément. Il y a eu, et ça a été dit explicitement, des changements dans les organisations. Et de ces changements dans les organisations, toute une série d'acteurs du monde patronal, évidemment, ne veulent pas revenir sur certains de ces changements qui ont été le produit d'une longue négociation. Donc, là aussi, les 35 heures, c'était un bon slogan politique et médiatique, mais dans la réalité des gens qui sont confrontés à la fois au monde de l'entreprise et au droit social, les situations sont beaucoup plus complexes. Et puis, en plus, l'ampleur des dispositifs d'allègement tels qu'ils ont eu lieu au cours des 10 dernières années, changent complètement la donne. Donc, j'allais dire, on progresse si on peut parler de sujets plus importants pour ne plus simplement s'envoyer ce genre de choses à la figure. De ce point de vue-là, on peut revenir sur des vrais sujets, hein, fiscalité, ampleur des autres droits sociaux. Il y a de quoi débattre politiquement sur des questions touchant au monde de l'entreprise.
Alors, s'agissant justement de l'ampleur des dispositifs d'allègement, il y a un dispositif qui prévoit des allègements qui sont plus que conséquents. C'est le pacte de compétitivité au sein duquel a été intégré le fameux CICE. Bref, d'ici à 2017, Jean-Luc Duménil, c'est 41 milliards d'euros d'allègement. Or, le 26 octobre dernier, c'est-à-dire tout récemment, il y a une tribune commune qui est signée par Jean-François Roubaud de la CGPME, Jean-Pierre Crouzet de l'UPA, sont les artisans, et puis Pierre Gattaz du MEDEF, qui dit notamment ceci: force est de constater qu'au-delà d'un premier vote de quelques baisses de charges et de fiscalité applicables en 2015, les discours positifs s'enchaînent, mais la cohérence peine à s'établir. Pire, les signaux contradictoires se multiplient. 41 milliards d'euros d'allègements, ce sont quelques allègements pour vos organisations ?
Mais pas du tout, mais d'abord il y a deux choses. Il y a une augmentation d'un côté, une diminution de l'autre. Et puis ensuite, les mesures du pacte de responsabilité, je vous rappelle qu'elles s'étalent dans le temps. Et à l'heure actuelle, la seule mesure qui soit rentrée en ligne de compte, c'est le CICE, le Crédit d'impôt compétitivité emploi. Le reste, pour l'instant, on n'en a pas vu la couleur.
Donc, parce que les branches professionnelles peinent aussi à négocier. Pour l'instant, il y a eu 2 accords signés sur une 50aine de branches. Ça ne fait pas beaucoup.
Mais
donc là, ça c'est aussi de la responsabilité des entreprises.
Mais ça n'a rien à voir, parce que le pacte de responsabilité n'est pas directement lié à la négociation dans les branches. Autrement dit, ces allègements ont été votés par le Parlement et devraient commencer à s'appliquer à partir de 2015. Négociation ou pas négociation. Maintenant, il est parfaitement exact que de l'autre côté, il est logique que à la fois les fédérations professionnelles et les entreprises, et c'est ce qu'elles font au quotidien, essaient de faire le maximum pour créer de l'emploi. Mais la difficulté, elle est économique. Et là, je pense qu'on en conviendra tous. Quand on a des entreprises avec un taux de marge comme ce qu'on a aujourd'hui, qui n'a jamais été aussi faible depuis 25 ans, vous voyez bien que ce n'est pas un discours politique, puisque là, ça concerne malheureusement beaucoup de gouvernements. Les entreprises dans ces conditions-là ont des difficultés pour investir et on sait très bien que si elles n'investissent pas, elles ont du mal à générer de la croissance et donc à créer de l'emploi. Et ça, malheureusement, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Alors nous, on a proposé des mesures concrètes qui d'ailleurs n'auraient pas forcément un impact budgétaire très important, mais qui seraient efficaces pour les entreprises. J'en citerai une seule. Ça consisterait à dire que pour les résultats qui serait investi en fonds propres dans l'entreprise, la fraction de ces résultats investis en fonds propres puisse bénéficier d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés. Là, vous voyez bien que ça aurait un impact immédiat sur les entreprises. Ça permettrait aux PME, notamment, très souvent, on dit que les PME françaises sont trop petites, de grandir. Et là, ça sécuriserait, ça aurait un effet de levier sur les financements et sur l'investissement. Et bien ça, je vous garantis que cette mesure, on la porte depuis longtemps et qu'on a le sentiment de crier dans le désert. Voilà.
Elle a un souligne.
Là, je vais être assez d'accord avec ce que vous venez de dire. En effet, je pense, la mesure du CICE, c'est une bonne chose. C'était une bonne chose à prendre. La question, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est pas parce que, et je crois qu'on sera d'accord, c'est pas parce que on va baisser mes charges que je vais créer de l'emploi. Je vais créer de l'emploi. Si j'ai un carnet de commandes, si j'ai des gens à faire travailler, je ne vais pas créer d'emploi pour laisser des gens attendre. Donc la vraie question, c'est en effet, peut-être que ces 41 millions...
milliards
évidemment, auraient été... Il y a autre chose, c'est que le CICE se répartit de manière... exactement la même, quel que soit le type d'entreprise, quelle que soit sa taille. Et c'est vrai que pour les PME, finalement, comme c'est relié au nombre d'emplois et au nombre d'emplois avec des salaires plutôt bas, ça a été beaucoup d'argent qui a été distribué à des très grosses entreprises qui n'avaient pas forcément besoin de ça. Et les PME n'ont pas forcément bénéficié. Vous voyez, moi, ça représente 65 000 euros. Donc je prends, c'est très bien, mais c'est 1% de mon chiffre d'affaires. Lorsque j'investis 10% de mon chiffre d'affaires en recherche et développement tous les ans. Donc je pense qu'on aurait attaché cette mesure à, en effet, des avancées concrètes, effectivement la capacité à réinvestir dans l'entreprise, parce que c'est par exemple ce que nous faisons. On n'a jamais distribué nos bénéfices, on a systématiquement réinvesti nos bénéfices, et c'est vrai qu'on n'a eu aucun retour là-dessus. Et donc, toutes ces questions-là, c'est un peu comme les critères de la BPI. La BPI, on l'a vu...
Banque publique d'investissement.
De la Banque publique d'investissement. On a vu que, franchement, on a senti le changement... avec cette banque publique d'investissement, où c'est beaucoup plus réactif, c'est beaucoup plus simple, ça permet de faire beaucoup plus de choses, mais on est encore sur, on aurait encore un travail à faire sur les critères, c'est-à-dire peut-être que les critères là doivent être ceux de la création d'emplois, plus que ceux qui seraient les mêmes que les banques traditionnelles.
Ce genre de discussion, Joël Duménil, vous ne pouvez pas les avoir de manière un petit peu sereine avec vos interlocuteurs au gouvernement ?
Bien sûr, mais quand on les rencontre, d'ailleurs, les choses se passent très sereinement, je vous rassure. Mais prenons l'exemple de la BPI. Évidemment, je partage ce qui vient d'être dit. Une des difficultés qu'on a, c'est qu'il faut distinguer le financement de l'exploitation, donc de la trésorerie des entreprises, et puis le financement de l'investissement. Et il est vrai qu'à l'heure actuelle, notamment grâce à la BPI, le financement de l'investissement, les choses se sont améliorées. Par contre, le financement de l'exploitation, c'est-à-dire la trésorerie, c'est quand dans une petite boîte, il manque 10 000 euros pour la fin de mois. Là, l'entrepreneur qui se tourne vers sa banque se voit claquer la porte sur les doigts.
Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que, non, il y a des vraies mesures pour la trésorerie qui sont que la BPI...
Mais sur des tickets très importants, attendez, quand
non,
on parle
pas,
de ça.
Non, pas du tout. Non, la BPI, mais si... C'est-à-dire qu'elle peut transformer les prêts à court terme, c'est-à-dire le découvert que l'entreprise a auprès d'une banque, peut être transformé en prêt à moyen terme, et la BPI remet autant que ce que la banque a mis. Alors, c'est vrai que le problème, c'est que c'est relié au fait que la banque accepte de faire ce prêt.
Et voilà.
Et, voilà. Et ça, je suis assez d'accord qu'en fait...
C'est le serpent qui se mord la queue.
La raison pour laquelle la BPI existe, c'est-à-dire de financer là où les banques ne veulent pas financer, là-dessus, on a un problème.
Je ne suis pas sûr que tous nos auditeurs soient des dirigeants de PME ce soir. Peut-être qu'ils auront été un petit peu perdus dans ces discussions techniques, néanmoins extrêmement intéressantes. Alain Chatriot, je vais vous redemander de faire un petit peu votre fonction d'historien et de faire preuve d'un peu de profondeur historique. Tout à l'heure, je vous demandais d'essayer d'évaluer la mobilisation des organisations patronales. Comment est-ce qu'on pourrait évaluer à présent l'intérêt que porte le gouvernement actuel aux entreprises ? Est-ce que C'est vrai qu'on a l'impression, mais on est toujours un petit peu avec des vues à court terme dans les médias. C'est-à-dire qu'on ne se souvient pas forcément de ce qui s'est passé il y a 5 ou 10 ans, mais on a l'impression que rarement, en tout cas un gouvernement, avait été à ce point attentif aux revendications des organisations patronales, à tel point que les revendications des pigeons ont été acceptées, à tel point que dernièrement, il y a eu un amendement à l'Assemblée nationale dans le projet de loi de financement de la Sécu où les dividendes versés aux actionnaires était assujetti au paiement de cotisations sociales tout de suite.
Il n'a pas été abandonné. Hein. Il est toujours en vigueur. Oui, mais enfin, pour l'instant,
c'est très bien que le gouvernement va faire en sorte que cet amendement
mais
ne passe
pas. Mais ce n'est pas le gouvernement qui vote au Sénat. Mais enfin, bon.
On va dire que les sénateurs et les députés sont assez dociles.
Sauf que l'assujettissement à cotisations sociales continue à exister pour les SARL. Donc maintenant, c'est les SARL la suite.
Il faut que le projet de loi soit définitivement voté.
Mais ça serait une rupture historique si le Sénat votait des textes qui s'opposent aux volontés des confédérations patronales. Et ce serait très intéressant pour l'historien.
Ça, je pourrais vous citer de nombreux exemples dans ce sens-là. Mais enfin, on peut en parler.
Je ne suis pas sûr qu'ils soient si nombreux que ça. Mais l'historien connaît peut-être une époque du Sénat bien antérieure où les relais du patronat y étaient très efficaces. Une remarque par rapport à ce gouvernement et aux relais et au type de discours porté dans les médias aussi sur le monde de l'entreprise. Ce qui est certain, c'est que pour un gouvernement de gauche, il y a un changement très réel parce que pendant très longtemps, le discours ne s'affichait jamais comme un discours voulant promouvoir de cette manière-là l'entreprise. Il y avait eu quelques courtes exceptions près, mais qui ont laissé parfois des souvenirs un peu délicats, entre autres autour de la figure évidemment de Bernard Tapie, mais ce n'était pas une norme, vu qu'une grande partie de la gauche française a toujours eu, du moins depuis très longtemps, des discours beaucoup plus révolutionnaires que sa propre pratique lorsqu'elle était au pouvoir. De ce point de vue-là, on est peut-être, on verra comment les choses se développent dans les années qui viennent, entré dans une phase assez différente où le discours semble rejoindre un type de pratique. Et de ce point de vue-là, c'est une vraie différence avec la phase de 83, où ce qu'on a appelé, de manière un peu impropre, le tournant de la rigueur, était un tournant qui, dans un certain nombre de pratiques, par le choix, au fond, de la construction européenne et des enjeux monétaires y afférents, le choix était bien fait dans les pratiques, mais dans les discours, on restait sur des discours où on ne voulait pas en entendre parler. Là, il semble qu'on a un discours qui se rapproche davantage d'un certain nombre de pratiques. Pour autant, comment les choses s'expliquent ? On pourrait y trouver des explications très idéologiques, je ne suis pas sûr que ce soit les bonnes. Il me semble qu'il y a une dimension qu'on a déjà vu aborder dans le débat, qui est évidemment celle du rapport au chômage. Parce que c'est l'obsession, non pas seulement de ce gouvernement, mais aussi d'un certain nombre des gouvernements précédents. Et il me semble qu'on a là un élément d'explication qui permet de mieux comprendre un certain nombre de mesures. Pour autant, on commençait à en parler autour de ces questions du chômage. Il y a d'autres gros dossiers qu'on aborde trop peu souvent et qui, à mon avis, sont des dossiers beaucoup plus importants qui mériteraient d'être un peu plus débattus et qui sont parfois très polémiques. Formation professionnelle, apprentissage, rapport aux réformes de l'enseignement supérieur, rapport au statut de la recherche dans les entreprises. Il me semble qu'on a là peut-être des objets qui mériteraient un peu plus de débat et qui, sans doute, mettraient aussi bien en cause des pratiques du monde patronal, des confédérations de salariés et aussi parfois d'une partie de l'État. En tout cas, on a un enjeu, peut-être, ce serait plus intéressant de débattre davantage précisément de ces questions.
Jean-Luc Duménil, est-ce qu'en préparant des mobilisations comme celle de la semaine du 1er décembre, vous ne prenez pas le risque de bloquer toute initiative d'un gouvernement qui vous est, malgré tout, de plus en plus favorable à vous, les entreprises?
Pardonnez-moi, mais ça n'est absolument pas le sentiment des entreprises. J'entends ce qui a été dit sur le fait que le gouvernement prend des mesures favorables, etc. J'ai moi-même reconnu qu'effectivement, des mesures étaient favorables, mais je vous garantis que le sentiment de la grande majorité des chefs d'entreprise, patrons de PME, c'est que les mesures qui sont prises ne vont pas dans leur sens. Alors, je parlais de pénibilité tout à l'heure, on évacue ça d'un revers de la main, parfait. Simplement, quand vous avez 10 critères à mettre en place et que vous allez devoir, dans chacune des entreprises, mesurer jour après jour ce qu'on appelle les postures pénibles, il va falloir qu'on m'explique comment on fait.
J'ai encore cité juste, parce qu'on est presque à la fin de l'émission, Jean-Luc Duménil, un extrait de cette lettre commune des patrons de la CGPME, du MEDEF et de l'UPA, qui demandait, au passage, au-delà des revendications, on va dire, à court terme, la réforme en profondeur de la sphère publique et de la protection sociale. Ce qui veut dire que, évidemment, on a aussi l'impression qu'au-delà de ces revendications de court terme, de toute manière, il n'y aura jamais de satisfaction parce que les organisations veulent modifier le système de protection sociale.
Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est qu'à l'heure actuelle, et là, on est sur du fond, on a 77% du financement de la protection sociale actuellement qui est assis sur les revenus du travail. Autrement dit, on finance la protection sociale avec les revenus du travail. Donc, plus nos concitoyens ont des difficultés, plus le chômage augmente, plus la pression sur les entreprises augmente, puisque ce sont elles qui financent la protection sociale. À un moment donné, il faut bien casser effectivement cette dynamique et regarder comment on fait pour faire en sorte de sauvegarder tout en le réformant notre système de protection sociale et en faisant en sorte que ça pèse moins sur les entreprises et sur les salariés. Et c'est comme ça qu'on redonnera de la compétitivité. Il ne s'agit pas de casser le système, il s'agit simplement de le faire évoluer. Sinon, année après année, on se contente d'empiler les taxes les unes sur les autres.
Une dernière réaction d'Alain Assouline.
Mais simplement, en baissant ces cotisations sociales, vous allez le salarié, ça veut dire que ça représente une baisse de salaire, parce que c'est bien une cotisation sociale. Et je crois que c'est un mauvais combat de se battre sur cette question d'essayer de baisser le coût du travail. Un salaire d'un Français est quatre fois celui d'un travailleur tunisien, mais il est la moitié de celui d'un Californien dans mon métier. Donc la question c'est quelle est l'économie qui marche le mieux. Donc je pense que la vraie question c'est que tout ce qui a été fait en ce moment, et je trouve que tous les rapports qu'a fait le gouvernement sur le numérique...
Et vous pensez que le coût du travail a baissé pour l'instant?
Juste pour conclure, Alain Souline.
Il a augmenté ces dernières années. Attendez, disons les choses.
Tous les rapports qu'a fait le gouvernement, c'est bien.
Mais non, c'est du discours. Je ne dis pas ça, mais je dis que simplement, essayons de regarder loin, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui va arriver
mais
avec le travail.
Mais on n'a pas le temps, quand on a 63 000 entreprises qui déposent le bilan, il faut prendre des mesures
immédiates. Mais justement,
immédiates.
Mais peut-être qu'il faut voir comment on fait pour que les entreprises mutent de façon à ne pas déposer le bilan.
On n'a pas le temps, c'est la phrase que je vais retenir, Jean-Haute Duménil, parce que c'est terminé l'émission. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Louis Duménil, Alain Souline et Alain Chatriot d'avoir participé à cette discussion. On se retrouve demain à 18h20.